Chapitre 12. Comment on célébra le 1er janvier sur Gallia et de quelle façon se termina ce jour de fête. Cependant, avec l'éloignement progressif de Gallia, le froid s'accroissait notablement. Déjà la température s'était abaissée au-delà de 42 degrés au-dessous de glace. Dans ces conditions, les thermomètres à mercure n'auraient pu être utilisés, puisque le mercure se solidifie à 42 degrés. Le thermomètre à alcool de la Dobryna fut donc mis en usage, et sa colonne tomba à 53 degrés au-dessous de glace. En même temps, l'effet prévu par le lieutenant Procope s'était manifesté sur les bords de cette crique, dans laquelle les deux navires avaient été mis en état d'hivernage. Les couches glacées, par un mouvement lent mais irrésistible, s'étaient épaissies sous la carène de la Hansa et de la Dobryna. Près du promontoire de roches qui les abritait, la goélette et la tartane, surélevées dans leurs cuvettes de glace, atteignaient déjà un niveau de 50 pieds au-dessus de la mer galienne. La Dobryna, plus légère que la tartane, la dominait quelque peu. Aucune force humaine n'eût pu empêcher ce travail de surélévation de s'accomplir. Le lieutenant Procope fut très inquiet du sort réservé à la goélette. Tous les objets qu'elle contenait avaient été enlevés. Il ne restait plus que la coque, la mâture et la machine. Mais cette coque, dans le cas de certaines éventualités, n'était-elle pas destinée à donner refuge à la petite colonie? Si au dégel, elle se brisait dans une chute impossible à retenir, et si les Galiens étaient occupés de quitter la terre chaude, quelle autre embarcation la pourrait remplacer? Ce ne serait pas en tout cas la tartane, menacée comme elle et destinée à subir le même sort. La Hansa, mal soudée dans sa carapace, s'inclinait déjà sous un angle inquiétant. Il y avait danger à y demeurer. Cependant, Isaac n'entendait pas abandonner sa cargaison, qu'il voulait surveiller nuit et jour. Il sentait bien que sa vie était compromise, mais son bien l'était encore plus, et cet éternel qu'il invoquait à chaque phrase, il ne se gênait pas de le maudire pour toutes les épreuves dont il se voyait accablé. Dans ces circonstances, le capitaine Servadac prit une résolution et Isaac dut se soumettre. Si l'existence d'Isaac Hakkabut n'était pas précisément indispensable aux divers membres de la colonie galienne, sa cargaison avait un prix incontestable. Il fallait donc avant tout la sauver d'un désastre très imminent. Le capitaine Servadac avait d'abord tenté d'inspirer à Isaac Hakkabut des inquiétudes pour lui-même. Il n'y avait pas réussi. Isaac ne voulait pas déloger. « Libre à vous !» avait alors répondu Hector Servadac. « Mais votre cargaison sera transportée dans les magasins de la terre chaude. » Les lamentations qu'Isaac Hakkabut fit entendre, si attendrissantes qu'elles fussent, ne touchèrent personne, et le déménagement commença dans la journée du 20 décembre. D'ailleurs, Isaac pouvait venir s'installer à Ninarush, et comme devant, surveiller ses marchandises, vendre, trafiquer, aux prix et poids convenus. Aucun préjudice ne lui serait causé. Véritablement, si Ben Zoof se fût permis de blâmer son capitaine, c'eût été de garder tant de ménagement envers ce trafiquant. Au fond, Isaac Hakkabut ne pouvait qu'approuver la résolution prise par le gouverneur général. Elle sauvegardait ses intérêts, elle mettait son bien en lieu sûr, et lui n'aurait rien à payer pour ce déchargement de la tartane, puisqu'il se faisait contre sa volonté. Pendant plusieurs jours, les Russes et les Espagnols s'employèrent activement à ce travail. Chaudement vêtus, étroitement encapuchonnés, ils purent impunément braver cette basse température. Ils évitaient seulement de toucher à main nue les objets de métal dont ils opéraient le transport. La peau de leurs doigts y fut restée, comme si ces objets eussent été rougis au feu, car l'effet produit est absolument identique à celui d'une brûlure. La besogne se fit donc sans accident, et la cargaison de la Hansa fut enfin emmagasinée dans une des vastes galeries de Ninarush. Le lieutenant Procope ne se sentit rassuré que quand la chose eut été complètement faite. Mais alors, Isaac Acabut, n'ayant plus aucune raison de demeurer sur sa tartane, vint habiter la galerie même réservée à ses marchandises. Il faut convenir qu'il ne fut pas gênant. On ne le voyait que fort peu. Il couchait près de son bien, il se nourrissait de son bien. Une lampe à esprit de vin lui servait à ses préparations culinaires, plus que modestes. Les hôtes de Nina Ruche n'avaient d'autre relation avec lui que lorsqu'il s'agissait, pour eux, d'acheter, pour lui, de vendre. Ce qui est certain, c'est que, peu à peu, tout l'or et l'argent de la petite colonie affluaient vers un tiroir à triple secret, dont la clé ne quittait jamais Isaac Acabut. Le 1er janvier du calendrier terrestre approchait. Dans quelques jours, un an se serait écoulé depuis la rencontre du globe terrestre et de la comète, depuis ce choc qui avait séparé de leurs semblables 36 êtres humains. En tout cas, pas un ne manquait jusqu'alors. Dans ces nouvelles conditions climatériques, leur santé était demeurée parfaite. Une température progressivement décroissante, mais sans revirement brusque, sans alternative, on peut même ajouter sans courant d'air, ne leur avait pas même causé un rhume. Donc, rien de plus sain que le climat de la comète. Tout portait donc à croire que, si les calculs du professeur étaient justes, si Gallia revenait à la Terre, les Galliens y arriveraient au complet. Bien que ce premier jour de l'an ne fût pas le renouvellement de l'année gallienne, et qu'il commença seulement la seconde moitié de sa révolution solaire, le capitaine Servadac voulut, non sans raison, qu'on le fêtât avec une certaine solennité. « Il ne faut pas, dit-il au comte Timachef et au lieutenant Procope, que nos compagnons se désintéressent des choses de la Terre. Ils doivent retrouver un jour le globe terrestre, et lors même que ce retour n'aurait pas à se produire, il eût été utile de les rattacher à l'ancien monde, au moins par le souvenir. Là-bas, on fêtera le renouvellement de l'année, fêtons-le aussi sur la comète. Cette simultanéité de sentiments est chose bonne. Il ne faut pas oublier que l'on doit s'occuper de nous sur la Terre. Des divers points du globe, on aperçoit Gallia graviter dans l'espace. Sinon à l'œil nu, attendu sa petitesse et sa distance, du moins à l'aide des lunettes et des télescopes. Une sorte de lien scientifique nous rattache au globe terrestre, et Gallia fait toujours partie du monde solaire. « Je vous approuve, capitaine, » répondit le comte Timachef. « Il est absolument certain que les observatoires doivent être très occupés de la nouvelle comète. De Paris, de Pétersbourg, de Greenwich, de Cambridge, du Cap, de Melbourne... J'imagine que de puissantes lunettes sont souvent braquées sur notre astéroïde. Il doit être fort à la mode là-bas, reprit le capitaine Servadac. Et je serais bien étonné si les revues, les journaux, ne tenaient pas le public des deux continents au courant de tous les faits et gestes de Gallia. Songeons donc à ceux qui songent à nous, et pendant ce 1er janvier terrestre, mettons-nous en communauté de sentiments avec eux. « Vous pensez, dit alors le lieutenant Procope, que l'on s'occupe sur la Terre de la comète qui l'a heurtée ? Je crois comme vous, mais j'ajoute qu'on y est conduit par d'autres motifs que l'intérêt scientifique ou le sentiment de curiosité. Les observations auxquelles s'est livré notre astronome ont été faites sur la Terre, évidemment, avec une précision non moins grande. Les éphémérides de Gallia sont exactement établies depuis longtemps déjà. » On connaît les éléments de la nouvelle comète, on sait quelle trajectoire elle parcourt dans l'espace, on a déterminé où et comment elle doit rencontrer la Terre. À quel point précis de l'écliptique, à quelle seconde de temps, en quel endroit même, elle viendra de nouveau choquer le globe terrestre, tout cela est certainement calculé avec une précision mathématique. C'est donc la certitude de cette rencontre qui doit surtout préoccuper les esprits. Je vais plus loin, et j'ose affirmer que, sur Terre, des précautions ont été prises pour atténuer les désastreux effets d'un nouveau choc, si, toutefois, il était possible d'en prendre. En parlant ainsi, le lieutenant Procope devait être dans la vérité, car il était dans la logique. Le retour de Gallia, parfaitement calculé, était bien pour primer toute autre préoccupation terrestre. On devait penser à Galia moins pour désirer que pour redouter son approche. Il est vrai que les Galiens, tout en voulant cette rencontre, ne pouvaient que s'inquiéter des conséquences d'un nouveau choc. Si, sur terre, comme le croyait le lieutenant Procope, des mesures avaient été prises pour en atténuer les désastres, ne conviendrait-il pas d'agir ainsi sur Galia ? C'est ce qu'il faudrait examiner plus tard. Quoi qu'il en soit, il fut décidé que l'on célébrerait la fête du 1er janvier. Les Russes eux-mêmes devaient s'unir aux Français et aux Espagnols, bien que leur calendrier ne fixât pas à cette date le renouvellement de l'année terrestre. Noël arriva, l'anniversaire de la naissance du Christ fut religieusement fêté, seul Isaac, ce jour-là, sembla se cacher plus obstinément encore dans son ténébreux réduit. Pendant la dernière semaine de l'année, Ben Zouf fut très affairé. Il s'agissait de combiner un programme attrayant. Les plaisirs ne pouvaient être bien variés sur Galia. On décida donc que le grand jour commencerait par un déjeuner monstre et finirait par une grande promenade sur la glace du côté de l'île Gourbie. On reviendrait au flambeau, c'est-à-dire la nuit venue, à la lueur de torches qui seraient fabriquées au moyen d'ingrédients pris dans la cargaison de la Hansa. Si le déjeuner est remarquablement bon, se dit Ben Zouf, la promenade sera remarquablement gaie, et il n'en faut pas davantage. La composition du menu fut donc une grosse affaire. De là, de fréquents conciliabules entre l'ordonnance du capitaine Servadac et le cuisinier de la Dobrina, et, en somme, fusion intelligente des méthodes de la cuisine russe et de la cuisine française. Le 31 décembre au soir, tout était prêt. Les mets froids, conserves de viande, pâtés de gibier, galantines et autres, achetés à bon prix à Isaac Hakkabut, figuraient déjà sur la grande table de la vaste salle. Les mets chauds devaient, le lendemain matin, se préparer sur les fourneaux à lave. Ce soir-là, on agita une question relative à Palmyra Rosette. Inviterait-on le professeur à prendre part au repas solennel ? Oui, sans doute, il convenait de l'inviter. Accepterait-il l'invitation ? C'était plus que douteux. Néanmoins, l'invitation fut faite. Le capitaine Servadac en personne avait voulu monter à l'observatoire, mais Palmyra Rosette recevait si mal les importuns qu'on préféra lui faire tenir un billet. Ce fut le jeune Pablo qui se chargea de porter la lettre d'invitation, et il revint bientôt avec une réponse conçue en ces termes. « Palmyra Rosette n'a pas autre chose à dire que ceci. Aujourd'hui, c'est le 125 juin, et demain, ce sera le 1er juillet, attendu que sur Galia, on doit compter suivant le calendrier galien. » C'était un refus, scientifiquement donné, mais c'était un refus. Le 1er janvier, une heure après le lever du soleil, Français, Russes, Espagnols et la petite Nina, qui représentait l'Italie, étaient attablés devant un déjeuner comme il ne s'en était jamais fait à la surface de Galia. Pour la partie solide, Ben Zouf et le cuisinier de la Dobrina s'étaient surpassés. Un certain plat de perdrix aux choux, dans lequel les choux avaient été remplacés par un curry capable de dissoudre les papilles de la langue et les muqueuses de l'estomac, fut la pièce triomphante. Quant au vin provenant des réserves de la Dobrina, ils étaient excellents. Vins de France, vins d'Espagne furent bus en l'honneur de leur pays d'origine, et la Russie ne se vit point oubliée grâce à quelques flacons de Kummel. Ce fut, comme l'avait espéré Ben Zouf, et très bon et très gai. Au dessert, un toast porté à la commune patrie, le vieux sphéroïde, au retour à la terre, réuni de tels hurrahs que Palmyra Rosette dut les entendre des hauteurs de son observatoire. Le déjeuner fini, il restait encore trois grandes heures de jour. Le soleil passait alors au zénith, un soleil qui n'eût jamais distillé les crus de Bordeaux ou de Bourgogne que l'on venait de boire, car son disque illuminait vaguement l'espace et ne réchauffait pas. Tous les convives se vêtirent chaudement des pieds à la tête pour une excursion qui devait durer jusqu'à la nuit. Ils allaient braver une rude température, mais impunément dans cet air calme. On quitta Nina Ruche, les uns causant, les autres chantant. Sur la grève glacée, chacun chaussa ses patins et s'en alla à sa guise, cela isolément, ceci par groupe. Le comte Timachev, le capitaine Servadac et le lieutenant Procope restaient plus volontiers ensemble. Negrete et les Espagnols erraient capricieusement sur l'immense plaine et se lançaient avec une incomparable vitesse jusqu'aux dernières limites de l'horizon. Devenus très forts à cet exercice du patinage, ils y déployaient avec une extrême ardeur la grâce qui leur est naturelle. Les matelots de la Dobryna, suivant une coutume des pays du Nord, s'étaient tous placés en file. Une longue perche, fixée sous leur bras droit, les maintenait en ligne, et ils filaient ainsi à perte de vue, comme un train auquel les rails ne laissent décrire que des courbes de grands rayons. Quant à Pablo et Nina, bras dessus, bras dessous, jetant de petits cris de joie, deux oiseaux auxquels on donne la volée, ils patinaient avec une grâce inexprimable, revenaient au groupe du capitaine Servadac, s'enfuyaient de nouveau. Ces jeunes êtres résumaient en eux toute la joie et peut-être toute l'espérance de la terre galienne. Il ne faut pas oublier Ben Zouf, voltigeant de l'un à l'autre avec une intarissable belle humeur, tout au présent et insoucieux de l'avenir. La troupe patineuse, emportée par son élan sur cette surface unie, alla vite et loin, plus loin que la ligne circulaire sur laquelle se refermait l'horizon de la terre chaude. Derrière elle disparurent les premières assises de roches, puis la crête blanche des falaises, puis la cime du volcan, empanachée de vapeurs fuligineuses. Quelquefois, on s'arrêtait pour reprendre haleine, un instant seulement, car il fallait craindre de se refroidir. Puis on repartait en gagnant du côté de l'île Gourbie, mais sans prétendre à l'atteindre, car la nuit venue, on devrait songer au retour. Le soleil s'abaissait déjà vers l'est, ou plutôt, effet auquel les Galiens s'étaient déjà accoutumés, il semblait tomber rapidement. Ces couchers de l'astre radieux se faisaient dans des conditions particulières sur cet horizon rétréci. Nulle vapeur ne se colorait de ces admirables nuances que donnent les derniers rayons. L'œil même, à travers cette mer congelée, ne pouvait apercevoir ce dernier jet de lumière verte qui s'élance à travers la surface liquide. Ici, le soleil, s'élargissant sous la réfraction, présentait un disque nettement arrêté à sa circonférence. Il disparaissait brusquement, comme si quelque trappe se fût subitement ouverte dans le champ de glace, et la nuit se faisait aussitôt. Avant la chute du jour, le capitaine Servadac rassembla tout son monde et recommanda à ses compagnons de se grouper autour de lui. On était allé en tirailleurs, il fallait revenir en peloton serré, ne point s'égarer dans les ténèbres et rentrer ensemble à la terre chaude. L'obscurité devait être profonde, car la lune, en conjonction avec le soleil, était perdue dans sa vague irradiation. La nuit était venue, les étoiles ne versaient plus au sol galien que cette pâle clarté dont parle Corneille. Les torches furent alors allumées, et pendant que les porteurs glissaient rapidement, leurs flammes, comme un fanion déployé à la brise, se rabattaient longuement en arrière, en s'avivant par la vitesse. Une heure après, le haut littoral de la terre chaude apparaissait confusément comme un énorme nuage noir à l'horizon. Il n'y avait pas à s'y tromper, le volcan le dominait de haut et projetait dans l'ombre une lueur intense. La réverbération des laves incandescentes, se faisant sur le miroir de glace, frappait le groupe des patineurs et laissait s'allonger derrière lui des ombres démesurées. Ce fut ainsi pendant une demi-heure environ. On s'approchait rapidement du littoral quand soudain un cri se fit entendre. C'était Ben Zouf qui avait poussé ce cri. Chacun enraya sa course en mordant la glace de son patin d'acier. Alors, à la lueur des torches qui étaient près de s'éteindre, on vit que Ben Zoof tendait son bras vers le littoral. Un cri parti de toutes les bouches répondit alors à celui que Ben Zoof avait jeté. Le volcan venait de s'éteindre subitement. Les laves qui jusqu'alors débordaient du cône supérieur avaient cessé de se répandre. Il semblait qu'un souffle puissant eût passé sur le cratère. Tous comprirent que la source de feu venait de se tarir. La matière éruptive avait-elle donc fait défaut? La chaleur allait-elle à jamais manquer à la terre chaude, et n'y aurait-il plus aucune possibilité de combattre les rigueurs de l'hiver gallien? Était-ce donc la mort, et la mort par le froid?
« En avant !» s'écria le capitaine Servadac d'une voix forte.
Les torches venaient de s'éteindre. Tous s'élancèrent dans la profonde obscurité. Ils arrivèrent rapidement au littoral. Ils n'en gravirent pas sans peine les roches glacées. Ils se précipitèrent dans la galerie ouverte, puis dans la grande salle. Ténèbres épaisses, température déjà basse. La nappe de feu ne fermait plus la grande baie, et, en se penchant au dehors, le lieutenant Procope put voir que le lagon, maintenu liquide jusqu'alors sous la cataracte des laves, était solidifié par le froid. Ainsi finit sur Gallia ce premier jour de l'année terrestre, si joyeusement commencé.